Vous êtes sur RTL. Le Grand Jury, présenté par Anaïs Bouton.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Grand Jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Il a été pendant 5 ans le monsieur Europe du président Macron. Il est désormais ministre délégué en charge des transports, un poste très exposé à portée de polémique. Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Beaucoup de sujets à aborder avec vous, des sujets qui passionnent les Français, parmi eux les auditeurs de RTL, parce qu'ils touchent directement évidemment nos vies, nos régions, notre porte-monnaie. Comment améliorer le transport en France? Est-ce qu'il y aura des trains à Noël? Est-ce qu'on sera prêt pour les JO ou pour la voiture électrique en 2035? Pour tout vous dire, on avait hâte de vous recevoir. Bienvenue dans ce Grand Jury, Clément Beaune.
Merci.
À mes côtés pour vous interroger, Jim Jarassé du Figaro. Bonjour, bonjour Jim. Bonjour. Et Pauline Buisson de la rédaction d'M6. Alors, bonjour, bonjour Pauline. Première question, Jim.
Oui, première question sur une triste nouvelle qu'on a appris hier soir, le décès de Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, l'ancien ministre de l'Intérieur, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. À l'époque, vous étiez conseiller à l'Élysée. Vous venez comme lui de la gauche, du Parti Socialiste. Quel souvenir gardez-vous de Gérard Collomb ?
Oui, c'est une immense tristesse pour les Lyonnais, pour les Français. Gérard Collomb était un familier de notre paysage politique, un homme engagé depuis des décennies, un élu local. Un maire visionnaire, il a été aussi un grand ministre de l'Intérieur. J'ai évidemment beaucoup de souvenirs partagés dans cette campagne électorale de 2016-2017. Il était l'un des premiers à avoir soutenu Emmanuel Macron. Et donc, moi j'étais à l'époque le conseiller d'Emmanuel Macron. Nous avions beaucoup, avec quelques-uns, cheminé ensemble pour construire cette aventure.
À soutenir Emmanuel Macron, il a aussi été l'un des premiers à émettre des critiques vis-à-vis du macronisme. Aujourd'hui, certains regrettent un manque de cap au sein de la majorité. Est-ce que finalement Gérard Collomb avait compris avant les autres peut-être les limites du en même temps macroniste?
Moi, je veux rendre hommage d'abord à Gérard Collomb et penser à sa famille. Je ne vais pas faire de lien avec l'actualité politique immédiate. Mais Gérard Collomb, c'était un homme qui avait une liberté, une exigence, qu'il a dite, mais qui a été aussi, et je le redis, un des grands bâtisseurs de cette aventure politique, venant de la gauche, dépassant les clivages, sachant rassembler, et un républicain très exigeant sur les questions de sécurité. En effet, comme maire et comme ministre de l'Intérieur, il avait alerté, mais je crois que c'est une alerte que nous partageons, et il avait eu cette phrase sur le vivre ensemble et le risque de vivre face à face. Je crois que ça ne vaut pas que sur les sujets d'actualité immédiate, l'immigration et d'autres, c'est faire nation, défendre des principes républicains, avoir une exigence de l'école à la sécurité. La phrase... Et cette exigence républicaine est extrêmement forte et elle nous oblige, évidemment, aujourd'hui.
La phrase à laquelle vous faites allusion, c'est celle qu'il a prononcée lors de la passation de pouvoir. Il avait dit « Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on ne doive vivre face à face. » C'est ça ce qu'on vit en même temps, en ce moment?
Mais c'est un risque dans toutes nos démocraties. On le voit bien avec... une violence politique qui est beaucoup plus forte, avec des fake news qui se répandent, avec des défis à relever, que ce soit la transition écologique ou les crises migratoires, les enjeux démographiques, tout ça c'est évident. Gérard Collomb avait été sans doute comme maire et comme ministre un de ceux qui depuis des années avait compris, mais quand je regarde son action, notamment comme maire de Lyon, c'est la fonction sans doute qui lui a le plus tenu à cœur, qu'il a incarné le plus longtemps, il avait su justement, dans des quartiers populaires et difficiles, investir, reconstruire des quartiers entiers, faire de l'écologie concrète, faire vivre les gens avec une exigence de sécurité. C'était un maire qui assumait cette exigence de sécurité depuis longtemps. Et donc tout ça, c'est un héritage politique qui, je crois, est le nôtre et celui de ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui. Et je veux vraiment avoir, en ce moment, une pensée d'émotion à son épouse, à ses enfants, à ses proches, aux Lyonnais et à tous ceux qui, comme moi, ont connu cette aventure à ses côtés depuis le départ.
Mais n'avait-il pas le pressentiment de ce qui allait advenir quand il parle de face à face? On est obligé de le lier, hein, parce que c'est un homme politique quand même. Quand vous voyez le drame de Crépol la semaine dernière et la mort du jeune Thomas poignardé dans une fête de village, est-ce qu'on n'y est pas à ces Français qui vivent face à face?
Mais il y a des drames. Le drame de Crépol est absolument inqualifiable et il nécessite une très grande fermeté. Le président de la République lui-même s'est exprimé, le gouvernement est mobilisé, notre justice aussi. Il y a eu d'ailleurs, je crois, des interpellations, des mises en examen, donc nous n'avons aucun laxisme là-dessus. Mais je voudrais étendre le propos. Gérard Collomb, avec d'autres, a dit que l'essentiel dans une société fragmentée par des inégalités, par les questions de sécurité, c'était d'avoir, quand on est aux responsabilités, ce sens toujours du collectif et de l'intérêt général. Ça passe par les questions de sécurité, ça passe par l'investissement que nous faisons dans l'école, dans nos grands services publics, on parlera de transport. Je suis absolument convaincu que c'est aussi une des grandes fractures françaises qu'il faut réparer. Et dans nos grandes villes, il avait fait lui-même à Lyon, il faut investir dans ces mobilités pour que des quartiers soient désenclavés. Donc il n'y a pas une seule réponse. Ça n'est pas un seul drame, aussi terrible soit-il, qui résume ce propos. Vivre côte à côte ou vivre ensemble, c'est évidemment la question de sécurité, c'est évidemment l'investissement dans la santé, c'est évidemment l'investissement dans les transports, c'est la question de nos services publics et ce sont nos réformes économiques pour lutter contre un chômage massif. Il serait trop facile de résumer ça à un texte de loi, un enjeu ou une problématique en particulier.
Pauline, vous vouliez parler de ce qui a agité la fin de semaine.
Exactement, cette polémique, vous la connaissez évidemment. On ne sera pas prêt pour les JO. C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a tenu ses propos. Pas prêt pour absorber les 800 000 voyageurs supplémentaires. Vous dites la même chose, Clément Beaune, on ne sera pas prêt?
Non, pas du tout. Je dis, on a du travail et on sera prêt. Et nous devons être prêts. C'est notre engagement et c'est notre devoir. Les propos de Mme Hidalgo, ils sont honteux. Parce que quand on est maire de Paris, maire de la ville haute des Jeux, qui n'ont pas été accueillis en France depuis 100 ans, aller parader sur un plateau de télévision pour faire oublier cette turpitude personnelle et sa polémique sur un voyage injustifiable et injustifié. Sacrifier l'intérêt général à tout cela en disant au monde entier « nous ne serons pas prêts à moins de 250 jours des Jeux », c'est une honte et c'est une trahison politique. Donc moi je vous le dis très clairement, nous travaillons, nous avons encore du boulot, évidemment, pour nos transports comme pour tous les sujets, la sécurité, les infrastructures, bien sûr. Mais nous sommes dans les temps, nous relèverons ce défi et nous relèverons un défi historique en plus de l'organisation du plus grand événement international sur notre territoire depuis des décennies, d'avoir les premiers Jeux où pour 100% des spectateurs sur 100% des sites, nous pourrons y aller en transport public ou en vélo. Ce sont les premiers Jeux cyclables et durables de l'histoire. Ça devrait être une fierté plutôt qu'une source de critiques aussi médiocres.
On a l'impression que tout le monde se renvoie la balle sur le dossier, la mairie, la région, l'État.
Mais
est-ce que ce n'est pas le moment de siffler la fin de la récré, Clément Beaune, c'est votre ministre?
Bien sûr, mais moi je le dis, vous imaginez le maire de Londres, vous imaginez le maire de Tokyo, vous imaginez le maire de Rio aller dire à 250 jours des Jeux, écoutez les amis, nous ne serons pas prêts. Il y a encore beaucoup de boulot. Je préfère qu'on le fasse ensemble. Moi, je fais tous les mois une réunion avec l'ensemble des acteurs. Précisément, pour mettre tout le monde autour de la table, c'est moi qui ai créé ce comité des mobilités pour l'enjeu des transports dans les JO. Il y a les aéroports de Paris, la RATP, la SNCF, Mme Pécresse. On n'a pas la même sensibilité politique. Elle vient travailler à chaque fois. Mme Hidalgo, jamais. Donc, je vais vous dire, c'est pas grave. On réussira quand même. On ne comptait pas sur Mme Hidalgo.
Sans elle ou contre elle même.
Pas contre elle, parce que je ne suis pas comme ça, malgré elle. Tant pis, mais on le fera. Les transports, ce n'est pas la responsabilité première de la ville de Paris, que chacun fasse son boulot. C'est un défi énorme et tous les engagements qu'on a pris, je le dis parce que c'est ça le fond de l'affaire, tous les engagements que nous avons pris, des lignes supplémentaires, par exemple la ligne 14 qui sera prolongée au nord et au sud, c'est dans les temps, ça sera ouvert au printemps prochain et nous le réussirons bien sûr.
Et
c'est un élan national, ce sont les Jeux des Français, nous devons les réussir ensemble.
Pour emmener les gens à la Défense, pour les épreuves de natation par exemple, le porte-maillot, la station de RER E et Hall, ça sera prêt aussi?
Oui, mais alors, tous les engagements qui sont dans le contrat que Paris et la France ont pris avec les autorités olympiques seront tenus. C'est le RER E qui sera ouvert en partie, c'est l'engagement qui a été pris. C'est la ligne 14 qui sera ouverte, qui est la ligne de vie de ces Jeux. Je dis aussi, ce n'est pas seulement un effort qu'on fait pour les Jeux, c'est un effort qu'on fait pour les Français, pour les Parisiens, pour les Franciliens, durablement. La ligne 14, elle ne va pas évidemment refermer après les Jeux, ce sera donc un apport pour les transports publics. Bien sûr, il y a des galères dans les transports publics aujourd'hui, je suis parfaitement conscient de cela, mais ce n'est pas en crachant sur le pays, en crachant sur nos agents publics. Il y a 70 000 agents de la RATP qui, en ce moment même, le week-end, font les travaux pour réussir tout cela. Il y a 200 000 cheminots qui sont mobilisés pour assurer partout en France cette réussite. Ce n'est pas une polémique pour nous. C'est un élan collectif. Ce n'est pas les Jeux de Mme Hidalgo, c'est les Jeux des Français, c'est pour ça que nous les réussirons.
Clément Beaune, vous parlez de l'aspect technique des travaux notamment. Il y a aussi l'aspect des ressources humaines et du personnel. Oui. Est-ce qu'il y aura suffisamment de personnel pour assurer cette montée en charge de l'offre de transport pendant les JO? La RATP envisage une prime de 15 euros par jour pour surcroît d'activité pendant les JO. Est-ce que c'est suffisant pour motiver le personnel?
Alors, pour être précis, il y a plusieurs sujets. Il y a les infrastructures qu'on a évoquées. Elles seront prêtes en temps et en heure. Est-ce qu'il y a encore du travail? Oui. Est-ce que nous serons prêts? Oui aussi. Il y a des recrutements. Quand vous voulez avec des renforts d'offres, 15% d'offres de transport supplémentaires pendant les Jeux. Il faut évidemment des conducteurs en plus. Il faut des personnels qu'on mobilise, il faut parfois des contractuels, il faut des volontaires. Volontaires ne veut pas dire bénévoles. Ce sont des gens qui, au sein de la RATP, au sein de la SNCF, ont dit « nous sommes disposés à être présents, parfois à venir d'autres régions pour les Jeux, avec un dispositif d'accompagnement social ». Je fais entièrement confiance à la RATP, à la SNCF, à leurs dirigeants et aux syndicats pour trouver ce dispositif de diverses primes. C'est normal, quand on fait du travail en plus, il faut des primes, il faut des accompagnements sociaux. Moi, j'y suis extrêmement attaché. Mais c'est une formidable vitrine, ces Jeux, pour les transports publics. C'est un accélérateur sur les questions d'accessibilité, c'est un accélérateur sur certaines lignes, et on continuera l'effort après les Jeux. Bien sûr, parce qu'il y aura encore du boulot pour améliorer nos transports publics. Les recrutements, ils sont en train d'être faits. Je fais justement ce point tous les mois. Ça serait bien que la maire de Paris vienne de temps en temps voir ce qui s'y passe, parce qu'il y a un énorme boulot qui est engagé. La RATP, la SNCF, par exemple, ce sont les volontaires aussi pour guider les personnes dans les stations de métro ou dans nos gares. La SNCF toute seule, c'est 10 000 volontaires qui sont en train d'être mobilisés. Aéroport de Paris, c'est plusieurs milliers de volontaires. Le dispositif de Paris 2024, c'est plus de 40 000 volontaires. C'est un élan national magnifique. Moi, je ne veux pas qu'on piétine ça pour faire oublier des petites polémiques médiocres.
Alors, selon vous, donc, tout va bien, mais vous avez quand même...
Non, pardon, je ne dis pas que tout va bien, parce qu'il n'y a aucune naïveté dans mon propos. Je dis que c'est un défi immense, qu'il y a un boulot qui est engagé par des dizaines de milliers de personnes dans nos entreprises et nos services publics, et que nous le réussirons. Et je préfère qu'on encourage ceux qui bossent plutôt que de les mépriser et de les balayer.
Vous avez quand même reconnu il y a quelques jours que la circulation automobile à Paris pendant les JO serait, votre mot, c'était « hardcore ». Quel message adressez-vous aux franciliens, aux parisiens, en employant ce mot sur cette période qui va être compliquée, du coup, si on comprend bien?
Oui, il ne faut pas cacher les choses. Être prêt, ça veut dire que nos transports publics seront organisés, que nos infrastructures seront prêtes. Il ne faut pas cacher aux parisiens ou aux franciliens, notamment, que la circulation en voiture, pour des raisons de sécurité, parce qu'il y aura des sites olympiques dans Paris, en Ile-de-France, sera compliquée. C'est un travail qui est fait d'ailleurs par la ville de Paris et la préfecture de police. Assumons nos responsabilités collectivement, moi je ne renvoie la balle à personne. Les plans de transport, comme on les appelle, seront présentés pour anticiper au maximum dans quelques jours. Et en début d'année, nous lancerons une campagne d'information, d'anticipation extrêmement précise pour les professionnels, les artisans, les commerçants, les hôteliers, pour les Parisiens ou les Franciliens aussi, pour leur expliquer les quartiers qui seront fermés, les rues qui seront bloquées à la circulation pendant quelques temps. Ça, c'est totalement nécessaire pour les Jeux, évidemment.
Concrètement, vous dites aux Parisiens d'oublier tout déplacement en voiture pendant les JO.
Il y aura justement une information précise, transparente. Il y aura évidemment des restrictions, mais elles seront les plus limitées possibles. Et c'est jour par jour que ce plan de circulation sera donné pour les sites de compétition. C'est ce travail qui va être fait dans quelques jours. Je regrette que la maire de Paris était absente 3 semaines pour en discuter. C'est un temps précieux qui a été gâché. Tant pis, on avance. Et en début d'année, on donnera aussi tous les conseils pratiques sur le télétravail, sur l'utilisation des transports publics justement, sur l'utilisation des pistes cyclables renforcées. Nous mettons 400 km de pistes cyclables en place en Ile-de-France à cette occasion. Et ce sera un héritage. Tout ça, nous sommes en train de le prévoir ensemble.
Mais vous savez quand même qu'il va manquer des bras pour les JO, parce qu'il en manque déjà à la RATP. On ne trouve pas assez d'agents pour assurer la sécurité au quotidien, déjà maintenant. Donc vous parlez des bénévoles, mais est-ce qu'on aura suffisamment d'agents de sécurité?
Des volontaires,
essentiellement. Oui,
des recrutements, bien sûr, que nous faisons. Le sujet des transports publics ou de nos grands services publics, où il y a des besoins de recrutement, il est évident, il est massif, il n'est pas lié seulement aux Jeux olympiques et paralympiques. Je prends l'exemple de la RATP pour être très concret. L'automne 2022 a été historiquement et extrêmement galère. Bon, il y a encore des galères sur certaines lignes.
Vous prenez le métro vous-même de temps en temps?
Oui, je le prends le week-end à chaque fois que je le peux. Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas vous mentir. La semaine, je suis en voiture pour mes obligations ministérielles, mais je fais... attention, évidemment, comme Parisien de toujours, de prendre les transports publics au moins chaque semaine. Donc je me rends compte qu'il y a des galères sur certaines lignes. J'habite sur la ligne 7, c'est une des lignes qui va pas trop mal, mais vous prenez la ligne 8 ou la ligne 6, c'est difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le Covid, le trafic a repris beaucoup. Il y avait des personnels qui avaient quitté la RATP ou beaucoup d'entreprises de transports publics. Nous recrutons, c'est pas seulement lié au jeu, nous recrutons massivement. L'année 2023, c'est plus de 6000 recrutements à la RATP qui sont en train d'arriver pour améliorer les choses. Est-ce qu'il y a encore besoin de recruter? Oui. Est-ce qu'il faudra encore recruter et investir nos transports publics après les Jeux? Bien sûr. Mais regardez simplement, la ligne 14, ça va être, pour ceux qui connaissent un peu l'Île-de-France et Paris, un apport extraordinaire et nécessaire pour décharger des lignes très chargées aujourd'hui, comme la ligne 13, et desservir toute l'Île-de-France. Il y a 4 lignes de métro du Grand Paris qui arrivent dans les années qui viennent aussi. C'est un investissement extraordinaire, nécessaire, exceptionnelle.
On peut expliquer à ceux qui nous écoutent qu'elle relie l'aéroport à la ville de Paris.
Elle relie au nord le Stade de France et Saint-Denis, qui va être aussi mieux desservi, c'est la banlieue nord de Paris, et jusqu'au sud à l'aéroport d'Orly. C'est aussi un élément d'attractivité pour notre ville sur le plan économique et touristique.
Oui, parce que Paris est la seule capitale d'Europe qui n'est pas liée à ces aéroports.
C'est vrai, absolument, c'est cet investissement. Et je le redis, les investissements, ils ne s'arrêtent pas en septembre 2024 quand les Jeux seront terminés. Ils continuent, c'est un investissement d'une décennie que nous faisons pour les transports en Ile-de-France et partout en France avec ce qu'on appelle les RER métropolitains.
Justement, vous parlez de septembre 2024, ce seront les Jeux paralympiques, donc la deuxième étape. On en parle un peu moins, mais pourtant c'est important, y compris pour les transports. Selon Ile-de-France Mobilité, le syndicat de transport francilien, seulement 9% du réseau métropolitain est accessible aux personnes handicapées. Est-ce que c'est un échec
pour vous ? C'est un des grands mots français. C'est que nos transports, mais c'était une culture en général, nos services publics, pardon ?
MAUX,
pardon, vous avez raison, un des grands mots, un mal français. Ouais. Nous avons du retard sur certains pays qui ont fait cette révolution culturelle, collective plutôt, pour mettre en accessibilité nos commerces, nos services publics, nos transports. Nous sommes en train, là aussi, de rattraper fortement. Il y aura sur à peu près 700 gares qui sont mises en accessibilité dans les années qui viennent. On sera à 80% de ce parcours d'ici 2024. Et pour les Jeux, justement, c'est un formidable accélérateur. Il y a 67 gares, pour être très précis, à Paris, en Ile-de-France et au-delà, qui seront entièrement accessibles pour les Jeux. Et on continue ce programme de mise en accessibilité au-delà des Jeux. Et les Jeux doivent être aussi l'occasion, je le dis, d'un changement de regard. Parfois, l'information n'est pas bonne. La prise en charge par les personnels de nos services publics n'est pas suffisante. On n'a pas assez d'attention aux personnes en situation de handicap, en fauteuil ou autre. Et on a pris des engagements très concrets, les 67 gares que j'évoquais, mais aussi le fait que par des applications notamment, il y aura une accessibilité sonore et visuelle pour les personnes malentendantes ou malvoyantes dans les transports qui sera déployée à Paris d'ici les Jeux. Et oui, on continue après les Jeux pour réussir aussi cette révolution de l'accessibilité.
Sur le métro, on a quand même l'impression que ça progresse doucement. Il y a 4 ans, c'était 3% des stations de métro qui étaient accessibles aux fauteuils roulants. Aujourd'hui, c'est 9%. Ça va pas assez vite,
je vais être très clair, le métro historique, c'est le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau qui a souvent plus de 100 ans, où vous ne pouvez pas mettre en accessibilité certaines stations et pas d'autres sur une même ligne, parce que si vous êtes arrivé dans une station de métro en fauteuil et que vous ne pouvez pas sortir à une autre station, pour des raisons évidentes de sécurité, c'est un gros problème. Donc c'est très lourd, c'est vrai à Londres, c'est vrai ailleurs. Toutes les nouvelles lignes d'abord, les lignes du Grand Paris, qui vont doubler la longueur du réseau de métro, sont évidemment en accessibilité. Les 67 gares que j'évoquais, elles sont principalement des gares de RER, des gares de Transilien. En Ile-de-France, ça va changer la vie. Parfois, quand on ne peut pas faire des gros travaux d'infrastructure, des ascenseurs, etc., on peut mettre en place des services d'accompagnement. Et donc, je veux qu'on renforce cela aussi. Ça va être fait pour les Jeux et ça va être un héritage au-delà des Jeux. Et puis, il y a des choses comme le bus parisien, où on a réussi, avec la RATP, à mettre déjà 100% en accessibilité par des rampes qui sortent les bus parisiens. Donc, le réseau historique, c'est difficile. C'est long, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux avec du service, avec les bus, avec les nouvelles lignes de métro qui seront 100% accessibles. Et dans les contrats d'investissement sur les transports que je signe avec chaque région, je mets tous les euros nécessaires, je suis intransigeant là-dessus, pour que dans toute la France, le programme de mise en accessibilité de 100% des gares d'ici 2027, 100% des gares prioritaires nationales soient faits.
Les bus, l'ouverture de la concurrence des réseaux de bus, c'est pour quand ?
C'est reporté. Oui. Parce que ça devait se faire d'un seul coup au 1er janvier 2025. J'ai dit, dès que je suis arrivé au ministère des Transports, c'est pas raisonnable. L'ouverture à la concurrence, pourquoi pas ? Ça n'est pas la privatisation. C'est le fait que Île-de-France Mobilité, la région Île-de-France qui a en charge les transports, puisse choisir différents acteurs des transports, qui sont d'ailleurs quasiment tous des entreprises publiques. Je pense que c'est bien, ça permet d'avoir des engagements de qualité de service importants. Mais on ne peut pas le faire brutalement. On parle de 20 000 chauffeurs de bus. Il faut les respecter, il faut du dialogue social, il faut préserver leurs conditions de vie et préserver le service public. Donc, on va étaler, reporter les choses. C'est une loi qui a été votée, je m'en félicite, cette semaine à l'Assemblée nationale, qui vient du Sénat, que soutient d'ailleurs aussi la région Île-de-France, et qui va faire en sorte que l'ouverture à la concurrence se fasse sereinement entre 2025 et la fin de l'année 2026.
C'est une concession qui est faite pour s'assurer justement que tout se passe bien pour les JO.
C'est pas que pour les JO, c'est pas une concession, c'est du dialogue social et un respect du service public, parce que faire la grande bascule d'un coup, je pense que ça n'était pas raisonnable et que ça n'était pas rendre service, bien sûr, aux agents, qu'il faut respecter, mais aussi aux usagers, parce que c'est très compliqué d'organiser un passage à l'ouverture à la concurrence, avec non plus un seul opérateur qui est la RATP aujourd'hui, mais peut-être plusieurs. Je dis juste parce que beaucoup nous disent c'est le marché, c'est l'ultralibéralisme. C'est un service public qui reste 100% un service public. c'est la région qui organise les transports, comme le font quasiment toutes les métropoles de France, de gauche ou de droite, qui choisit celui ou celle qui organise le service public des transports.
Clément Beaune, un mot sur votre campagne contre les violences sexistes dans les transports. Vous avez lancé vendredi une campagne d'affichage sur le sujet. 86% des femmes auraient été victimes, confrontées à des actes sexistes ou de violences sexuelles dans les transports publics. C'est absolument phénoménal. Est-ce que c'est avec des affiches qu'on combat ce fléau, Clément Beaune ?
Pas seulement, mais il faut une prise de conscience collective et une mobilisation générale. Vous avez rappelé ce chiffre, c'est en fait, disons-le crûment, toutes les femmes qui ont été victimes au moins une fois de violences sexuelles ou sexistes. J'insiste parce qu'on ne peut pas tolérer ce qui pourrait apparaître comme banal, malheureusement, tristement banal, un geste, une main, les frotteurs, comme on le dit dans le métro, et des femmes qui ont des stratégies d'évitement ou de contournement. 5% des femmes disent qu'elles renoncent à prendre les transports publics parce qu'elles craignent pour leur sécurité. Donc on fait des choses qui ne sont pas qu'une campagne. Je veux quand même la montrer parce qu'elle est très importante. Levons les yeux. C'est la première fois qu'on fait une campagne de cette ampleur, de cette longueur, de 4 semaines, pour en faire un vrai sujet de société. Parce que nous avons été parfois témoins. Nous avons la possibilité de lever les yeux de nos téléphones et de signaler un acte à caractère sexuel ou sexiste, une violence contre les femmes. Et c'est aussi en mobilisant les témoins, en ciblant les agresseurs, en leur disant que c'est sanctionné et sanctionnable, que nous améliorerons la situation. Mais on fait aussi le déploiement de caméras.
Concrètement,
on renforce la sécurité dans le transport, avec les forces de sécurité aussi. Rien qu'à Paris, avec le ministre de l'Intérieur, c'est 200 policiers que nous mobilisons en plus.
Si on est un usager de transport et qu'on est témoin justement d'un acte, comment faut-il agir? Quelle est la marche à suivre?
Alors, évidemment, il faut s'adapter à chaque situation. Quand il y a une mise en danger grave, c'est plus compliqué. Mais il y a un numéro de téléphone, un SMS qui est possible, qui est dédié à cela, qui s'appelle le 3117 ou le 3117-7 si vous envoyez un SMS. Ce numéro est de plus en plus connu, mais insuffisamment. C'est pour les victimes, bien sûr, mais c'est aussi pour un témoin qui peut signaler un fait. C'est très important de le faire, de ne pas détourner le regard ou appeler, évidemment, les services de police à chaque fois qu'on le peut, au 17. Nous avons, avec le ministre de l'Intérieur, lancé une grande campagne de formation de son côté des forces de l'ordre et d'information pour dire « la police est à vos côtés pour sanctionner et sanctionner durement ce type de violence ». Et puis, nous l'avons fait avec tous nos opérateurs de transport à la SNCF. C'est 2800 agents de sécurité. Nous en recrutons davantage pour lutter contre ce fléau. Ce n'est pas seulement une campagne, mais la campagne, elle permet de faire prendre conscience à chacun qu'on a un rôle à jouer et qu'on ne peut plus mettre un tabou sur ce fléau de société. Le harcèlement de rue, je crois qu'on a enfin nommé les choses. Le harcèlement dans les transports, c'est la suite de l'espace public. On ne le disait pas assez. Ben, disons-le, moi je n'ai pas de problème à le nommer. Ce sont toutes les femmes qui vivent cette situation. Et donc il faut évidemment un sursaut, des forces de sécurité, des caméras, des sanctions, des personnes à l'écoute pour faire cesser ce fléau.
Et les violences sexistes et sexuelles dans les VTC par exemple, est-ce qu'il faut... Comment lutter ?
Vous avez raison, il faut qu'il y ait un tabou dans aucun mode de transport. Et donc j'ai réuni vendredi après-midi, après le lancement de cette campagne pour les transports publics, les représentants des taxis, les représentants des VTC, d'abord pour qu'on sache de quoi il s'agit. On reçoit parfois des témoignages de personnes qui disent avoir subi une agression ou une violence sexiste ou sexuelle dans un taxi, dans un VTC.
Voire raciste, puisqu'on a eu « je te prends pas, sale juif », voilà ce qu'une
antisémite,
famille
raciste,
qui a
toutes les violences sont
d'Israël
les violences,
a entendu cette semaine en voulant entrer dans un taxi à Paris.
Et ben aujourd'hui, on ne sait pas. On n'a pas de remontée des données. Donc d'abord, je veux qu'on sache quelle est la réalité sur toutes ces violences, sexuelles ou sexistes ou autres. Premier point. Qu'on forme systématiquement. Il ne sera plus possible de passer un examen de taxi ou de VTC sans avoir reçu une formation sanctionnée par l'examen sur les violences à caractère sexuel et sexiste. Nous mobilisons ici évidemment nos forces de sécurité pour les sanctionner quand il y a un signalement. Et puis, ça n'était pas le cas et c'est aberrant. Quelqu'un, un chauffeur qui est condamné, même peut-être avant d'être chauffeur ou indépendamment de son activité, pour une violence à caractère sexuel ou sexiste, ne pourra plus exercer la profession. Tolérance zéro dans tous les transports, et je suivrai, nous changerons la règle, et je suivrai l'application de cette règle par les centrales de réservation, par les plateformes taxi et VTC.
Vous allez contrôler les casiers judiciaires des chauffeurs?
Oui, c'est déjà possible, mais seulement sur certaines infractions, et il faut évidemment que les préfectures qui assurent ce rôle de vérification aient l'information, c'est pas toujours le cas aujourd'hui, et que les grandes plateformes taxi ou VTC aient l'information aussi, dans le respect évidemment du droit à l'information, à la protection des données, mais qu'on puisse identifier les délinquants et les sanctionner.
Alors cette semaine, un accord pour des augmentations de salaires a finalement été signé par la CFDT et l'UNSA, Sudrail et la CSGT, la Splanenloot. On parle là de la SNCF. La question est très simple, monsieur le ministre. Y aura-t-il des trains à Noël ?
Il le faut, évidemment. Il faut qu'il y ait des trains, mais il faut qu'il y ait des trains en nombre suffisant.
Oui, ça je confirme. Bon.
Des trains, il y en a, mais des trains en nombre suffisant.
On ne revivra pas la pagaille de l'année dernière.
Mais pour être très clair, ce serait incompréhensible que, après ce qu'on a vécu, qui était douloureux pour des milliers de familles l'an dernier, on ait un mouvement social au moment de Noël. Ce serait incompréhensible. Moi, je fais confiance à la négociation sociale qui a commencé beaucoup plus tôt cette année, avec des propositions ambitieuses de la direction de la SNCF, sur les salaires notamment. Ce qui est proposé, je le dis, sur les salaires à la SNCF, entre 2022 et 2024, ce sera une augmentation de 17%, plus que l'inflation, nettement plus que l'inflation. C'est légitime parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, notamment pour des grands événements internationaux, Coupe du Monde de rugby et jeux. Et puis, pour les bas salaires, c'est même plus de 20%. Donc il y a ce dialogue social qui se tient. Vous l'avez dit, il y a des syndicats, je m'en félicite, qui ont déjà accepté ces propositions salariales. J'espère que tout le monde aura le sens des responsabilités. En tout cas, je le dis, les Français ont droit aux vacances de Noël. Les Français ont droit, après ce qu'on a vécu pendant le Covid, après ce qu'on a vécu l'an dernier, même si par la négociation, on a réussi à éviter que ça se reproduise au premier de l'an, on doit pouvoir passer des vacances de Noël sereines, en famille. Il y a un contexte politique, le pouvoir d'achat qui reste difficile. Les Français méritent ce repos, et notamment les plus modestes qui ont besoin des services publics. Donc je fais appel vraiment avec engagement et fermeté à la responsabilité de tous.
Vous qui êtes ministre des Transports, même si vous n'êtes pas le décisionnaire direct, qu'est-ce que vous pensez de l'opacité de la grille tarifaire de la SNCF ? Il y a parfois des prix qui peuvent varier de 1 à 8 selon la façon dont on réserve son billet. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer les choses sur ce sujet ?
Alors, pourquoi les prix varient ? Parce qu'on a à la SNCF un système, pardon d'être un peu technique, qui s'appelle le yield, c'est pas très joli en français, mais qui fait que quand les périodes sont très chargées, les prix sont plus élevés, mais la contrepartie, si je puis dire, par rapport à des prix qui seraient moyens, c'est qu'il y a aussi des bonnes affaires pour ceux qui ont un peu plus de flexibilité, qui voyagent dans des périodes un peu moins chargées. Moi, ma responsabilité, c'est de faire d'abord que les trains du quotidien, parce qu'on parle beaucoup du TGV, on parle moins des intercités, les TER, où les régions font beaucoup d'efforts sur les tarifs, c'est que ces trains-là soient accessibles aux Français. Accessibles, qu'il y en ait plus, et accessible, qu'il y ait des tarifs qui soient raisonnables. C'est là-dessus que je vais demander à la SNCF, pour cette année encore, d'avoir des mesures de protection du pouvoir d'achat, plus ciblées, parce qu'heureusement l'inflation recule, mais de garder un bouclier tarifaire qui soit très important pour les Français les plus modestes et pour les Français qui prennent ces trains du quotidien qu'on a beaucoup négligé par rapport au TGV ces dernières années.
Bah justement, une pause, et dans un instant, on verra si ce qu'il en est de ce passe-rail, le billet pour tous à 49 euros. On a hâte.
Merci.
Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, Paris 1ère, M6.
RTL. RTL, il est 12h30. L'essentiel de l'actualité avec Rachel Sadoudine. Bonjour Rachel.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Nous serons dans les temps pour les Jeux Olympiques. La promesse du ministre des Transports, invité du Grand Jury, RTL, Le Figaro, M6. Clément Beaune répond aux questions d'Anaïs Bouton que vous retrouvez juste après ça pour la suite du Grand Jury diffusé sur Paris 1ère. Un homme de 55 ans, victime d'une balle perdue à Dijon, mortellement blessé par des tirs sur la façade de son immeuble la nuit dernière. Il a été touché par une balle dans le dos, dans son lit, c'est ce que confirment des sources policières contactées par RTL, alors qu'une fusillade était en cours près d'un point de deal dans le quartier Stalingrad. Deux personnes sont encore en fuite ce midi. Troisième jour de trêve dans la bande de Gaza. Malgré les craintes, hier soir, l'accord tient entre Israël et le Hamas. Le Hamas qui devrait libérer de nouveaux otages aujourd'hui, 13 selon la presse israélienne. Et d'après les informations de RTL, aucun Français ne figure sur la liste des otages qui seront libérés aujourd'hui. Une information à confirmer à la prise en charge des otages, a priori en fin de journée. Les funérailles de Gérard Collomb auront lieu mercredi à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. L'ancien maire de Lyon, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, est décédé hier soir d'un cancer à l'estomac à 76 ans. La météo cet après-midi avec toujours des nuages nombreux sur la moitié nord, des averses possibles sur le Finistère. Ailleurs, c'est le soleil qui domine. 7 degrés à Rennes, Lille et Paris, 9 pour Bordeaux et Toulouse et 11 degrés à Brest et Marseille. Et enfin, les courses, elles ont lieu à Auteuil cet après-midi. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 14, le 5, le 6, le 9, l'As, le 4 et l'Outsider de RTL, le 9 au Diago. RTL, il est midi 31, tout de suite la suite du Grand Jury RTL, Le Figaro M6, en direct sur Paris 1ère Anaïs Bouton reçoit le ministre des Transports, Clément Beaune.
On aimerait tous rejoindre.
RTL.
Suite du Grand Jury, présenté par Anaïs Bouton.
Et avec moi, Pauline Buisson de M6 et Jim Jarassi du Figaro. Pauline, vous aviez la fameuse question sur le passerail.
Oui, Clément Beaune, vous avez annoncé la création d'un passerail pour prendre le train en illimité en France en 2024. Ça existe déjà en Allemagne, par exemple, 49 euros. En France, ça concernerait les trains intercités, les TER et les transports en commun de certaines villes. Vous l'avez donc annoncé pour l'été prochain. Est-ce qu'on est bien parti pour que ça se mette en place?
Oui, on a engagé un travail technique et puis une discussion politique avec les régions. En France, et c'est très bien comme ça, pour des raisons de proximité, ce sont les régions qui organisent les TER, les trains express régionaux. Et donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait qu'on ait ensemble une offre attractive, on déterminera le prix conjointement, État et régions, de passes illimitées qui simplifient l'accès au transport, au moins pour les trains intercités, qui relèvent de l'État, ces trains qu'on connaît, Paris-Clermont-Ferrand, Bordeaux-Marseille et d'autres, et puis les trains TER, qui font voyager des millions de personnes chaque jour et qui sont entre les mains des régions. Les régions font déjà des offres souvent attractives pour les jeunes, pour les étudiants.
Justement,
ou le week-end.
On a l'impression que c'est là que ça bloque, que c'est encore difficile
de convaincre
les régions.
Oui, c'est difficile, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'il ne s'agit pas de dessaisir les régions d'une compétence qu'elles exercent bien, il ne s'agit pas d'uniformiser toutes les offres, il s'agit d'avoir un pass, pas cher, accessible, illimité, peut-être d'abord pour les jeunes, on est en train d'en discuter, qui fonctionne rapidement, j'espère dès l'été prochain, et qui puisse, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait les Autrichiens, et ça a été un formidable succès, rendre, si vous me permettez de le dire ainsi, plus sexy nos transports publics, plus abordables et plus attractifs.
Et les Portugais aussi. Comment ça se fait qu'on arrive à le faire en Europe? Et d'ailleurs, ça concerne, si je ne m'abuse, tout le circuit ferroviaire dans ces pays-là.
Et qu'on au Portugal, pas mais en Allemagne, oui.
Qu'on n'arrive pas à le faire. Oui. Pourquoi on n'arrive pas à le faire en France?
Mais on va réussir à le faire. On n'est pas
non, parce que
moins bon que les autres.
D'abord les jeunes, et puis peut-être.
Non, mais parce qu'il faut discuter. Mais les Allemands, qui sont un pays fédéral où il y a des régions, des Länder très puissants, ont réussi. Ils ont fait une expérience un été, puis après ils ont mis quelques mois, ils se sont mis autour de la table, l'État et ses régions, et ils ont trouvé un système technique de financement, etc. On n'est pas plus mauvais que les autres en France. Moi, je pense que là aussi, on sera prêt. Ça nécessite un effort collectif. J'ai commencé cette discussion avec les régions. Il y a beaucoup de choses à discuter, à régler. Mais je crois qu'il y a de la bonne volonté de la part de beaucoup de régions, en tout cas de ma part, pour qu'on avance.
Il y a le financement, il y a aussi l'état des infrastructures, peut-être. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà par rénover certaines lignes?
Vous avez raison. La priorité des priorités, c'est d'investir dans le réseau. Ça n'empêche pas de faire d'autres choses à court terme. Mais quel est ce qui marche? Quel est l'état de ce qui marche et de ce qui ne marche pas en France? Soyons fiers de ce qui marche. On a un réseau de TGV qui est sans doute l'un des meilleurs, sinon le meilleur en Europe. On a investi beaucoup dans notre TGV, avec des prix des billets de train qui sont parfois critiqués parce qu'ils sont élevés, mais c'est un service de très grande qualité.
On a moins investi dans les petits.
On a moins investi dans le réseau ferroviaire, c'est-à-dire les rails, c'est-à-dire le ballast, c'est-à-dire les caténaires, ce qu'on ne voit pas mais qui vous rattrape un jour quand vous cessez d'investir, parce que c'est ça qui ralentit les trains. Et on a fait deux France, en quelque sorte. La France du TGV, qui est plutôt CSP+, si on se parle franchement, qui certes se plaint un peu parce que c'est cher, mais qui a un service de bonne qualité, et puis une France de l'intercité, du train corail, qui n'a pas un service de bonne qualité. Et donc moi, je mets l'essentiel du budget de mon ministère et de mes investissements sur le réseau, la régénération de ce réseau. On va augmenter de 50% notre investissement annuel dans le réseau. Ça ne se verra pas. Peut-être que ce n'est pas moi qui couperai les rubans. Ce n'est pas grave, on le fait pour l'avenir. Mais ça améliorera la vie de 15 millions de Français qui prennent chaque jour ou chaque semaine le Paris-Clermont, le Paris-Limoges, le Bordeaux-Marseille, le Nantes-Bordeaux, et qui sont des trains en retard, dégradés. Et ces Français-là, qui sont souvent plus modestes, qui n'ont pas le TGV, ils disent « qu'est-ce qu'on fait pour moi ?» C'est cette France des gilets jaunes qu'il faut aider aussi, y compris par le train. Et si on veut réussir la transition écologique avec tous les Français, il faut leur proposer des investissements et des prix attractifs.
Clément Beaune, est-ce que le but, c'est aussi de rendre le train plus accessible que l'avion? On voit encore des billets d'avion, par exemple. On a vérifié il y a quelques minutes un Paris-Madrid pour 30 euros en low cost. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui quand on a des intellectuels comme Jean-Marc Jancovici qui pensent que on doit faire 3 ou 4 vols maximum dans sa vie pour justement pour des raisons d'écologie. Où en est-on de la taxation du secteur de l'aérien?
Je vais être très clair. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? L'avion est structurellement moins cher que le train. Pourquoi? Parce que vous avez moins d'infrastructures. On parlait du rail, des réseaux. pour investir dans un réseau ferroviaire, ce sont des milliards d'euros pour une ligne à grande vitesse ou pour simplement entretenir une ligne. Donc, si on ne le subventionne pas, le train est naturellement plus cher que l'avion. C'est pour ça qu'on le subventionne. Je rappelle que le prix moyen d'un billet de train, c'est 20% de ce que coûte réellement à la SNCF l'usage du train. Le reste, c'est pris en charge par l'État ou par les régions, tant mieux. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Oui. Il faut donc que, sur certaines lignes, on ferme des liaisons aériennes. On l'a assumé, on est le seul pays en Europe à l'avoir fait.
Il y a beaucoup de dérogations.
Oui, d'accord, mais on est le seul pays en Europe à l'avoir fait et on va continuer. Mais il faut le faire en proposant des solutions aux gens. Quand vous êtes une grande métropole comme Toulouse, que vous avez l'essentiel de l'industrie aéronautique française et de beaucoup d'industries très dynamiques, aujourd'hui, vous êtes à plus de 4 heures, même nettement plus, en train de Paris. Ce n'est pas compétitif, donc c'est normal qu'il y ait une ligne d'avion. C'est pour ça aussi qu'il faut faire une ligne à grande vitesse. Je trouve un peu bizarre que les écologistes soient à la fois contre l'avion et contre la ligne à grande vitesse qui va relier Bordeaux à Toulouse et Toulouse à Paris. Donc on fait ces investissements et quand l'offre ferroviaire s'améliore, là on ferme des lignes d'avion, il faut le faire dans cet ordre-là. Oui, il faut aussi ne pas s'interdire de faire payer plus le secteur aérien. Alors, je l'ai assumé pour investir dans la décarbonation, pas pour le plaisir de la taxe, pour investir dans les transports. C'est ce qu'on fait dans le budget pour 2024. Je l'assume. Il y a une taxe sur les grandes infrastructures de transport, les autoroutes et les aéroports, donc le secteur aérien. C'est à peu près 600 millions d'euros par an, c'est massif. Pour financer, c'est 100% fléché à cela, des investissements dans le train et dans les autres transports.
Ça veut dire que vous taxez les gros aéroports comme les aéroports de Paris, mais par exemple un petit aéroport comme Beauvais, qui marche essentiellement grâce aux low cost, lui n'est pas taxé ?
Alors, c'est effectivement, il y a un seuil, sans rentrer dans trop de techniques, il y a un seuil dans cette loi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petits aéroports régionaux, il n'y a pas que Beauvais, qui ont besoin, parce que sinon il n'y a plus de connexion du tout avec Paris ou avec d'autres métropoles, de garder, en tout cas pour les années qui viennent, un aéroport. Je prends un exemple très concret, Rodez. Rodez, vous avez une très très mauvaise liaison ferroviaire avec Paris et les autres grandes métropoles françaises. Si vous voulez qu'il y ait un tissu économique, un développement, bah pour quelques années au moins, il faut garder une liaison aérienne. Je l'assume. Il faut cibler les choses. Mais j'assume aussi que oui, il y a une contribution pour la transition écologique sur les grandes infrastructures parce qu'elles ont les moyens de contribuer. Ce n'est pas une punition, c'est un financement de la transition écologique. Je n'ai pas l'obsession de la taxe, j'ai l'obsession de l'écologie. Et si on veut à la fois que notre dette ne soit pas trop élevée, qu'on finance nos investissements et qu'on encourage les modes de transport les plus propres, bah, il faut cette contribution, elle est raisonnable, elle est soutenable et nous demandons donc cet effort aux sociétés d'autoroutes et aux grands aéroports.
Oui, on va parler maintenant des automobilistes, Clément Beaune. Pour les plus modestes, ceux qui doivent utiliser leur voiture pour travailler, le chèque carburant, 100 euros, sera versé en janvier prochain. Est-ce que c'était nécessaire selon vous ? Vous venez de dire, j'ai l'obsession de l'écologie, on a plutôt l'impression que la transition écologique attendra, non ?
Mais le mot de transition est important, parce que moi je suis ministre des Transports et je suis élu de Paris. J'utilise très peu, pour mes déplacements personnels, une voiture. Mais pour 85% des Français, c'est la voiture au quotidien. C'est pas un choix pour eux. C'est souvent qu'ils n'ont pas d'autre option. Ça les amuse pas d'avoir une vieille voiture polluante et individuelle. Mais si vous ne leur proposez pas des solutions, il y a un problème. Et donc, on assume de faire des mesures d'urgence quand les carburants s'envolent, de manière très ciblée. J'entends aussi des gens qui nous donnent des leçons de finances publiques toute la journée, même à droite, qui nous disent qu'il faut aller plus loin dans le soutien au carburant. Non, on fait ces efforts ciblés sur les ménages français les plus modestes et qui travaillent, et c'est temporaire.
Bruno mais Le Maire dit quand même qu'on n'a plus les moyens de
Oui, mais il a raison, il faut faire attention à nos finances publiques. On fait cet effort, il a été annoncé par le président de la République, parce qu'on en a besoin dans cette transition, dans un moment où le pouvoir d'achat reste difficile. Mais les plus grandes mesures sociales qu'on fait dans les transports, c'est l'investissement dans le train, pour tous, notamment les intercités, c'est le leasing social, qui est dans l'automobile, je rappelle ce que c'est, hein, ça va arriver dans quelques semaines, c'est le fait que pour les ménages les plus modestes, les 50% de Français les plus modestes, on pourra accéder à une voiture électrique à moins de 100 euros par mois. C'est une vraie réforme sociale très importante. Et donc, ce n'est pas la voiture en soi qui est la cible, c'est la voiture individuelle et polluante. On encourage le covoiturage, on a même un plan et des financements pour cela, on encourage l'achat de voitures électriques, mais il faut tenir compte du pouvoir d'achat des Français en zone rurale, qu'on doit accompagner.
La voiture électrique à 100 euros, quels sont les critères précis pour pouvoir y accéder ?
On va détailler le dispositif dans quelques semaines, mais on l'a déjà dit, ce sera ciblé sur à peu près, sur les 50% de ménages les plus modestes. C'est normal qu'on aide en priorité les classes moyennes, les classes populaires, qui ont besoin de ce soutien, parce que pour elles, la voiture électrique est encore un bien de luxe. Et puis on a assumé aussi de mettre en place un critère environnemental, parce qu'il ne faut pas qu'on refasse en matière d'industrie les erreurs qu'on a fait dans le textile ou dans d'autres productions ces dernières années. On veut des emplois en France et en Europe. Donc on va soutenir les modèles, c'est revendiqué, qui sont produits en France et en Europe et pas à l'autre bout du monde et qui polluent davantage.
Alors vous vous attaquez en parallèle aux véhicules thermiques. À partir de janvier prochain, le malus au poids est abaissé, tout comme le malus émission de CO2. Vous déclarez, en gros, vous déclarez la guerre aux SUV.
C'est pas une guerre, mais là aussi, si on est cohérent en matière d'écologie, le bonus qu'on donne aux Français pour acquérir des véhicules plus propres, ça coûte à l'État 1,5 milliard par an. C'est beaucoup d'argent, on l'assume là aussi. Mais il est normal d'abord que ça soit pour des véhicules plutôt produits en France et en Europe, parce qu'avant c'était 2/3 de véhicules chinois qui en bénéficiaient. Et puis c'est normal que même au sein des véhicules électriques, on cible plutôt ceux qui ont la plus faible empreinte carbone, qui sont les moins polluants. Les plus gros véhicules ne rentrent pas dans cette catégorie, donc on durcit les critères et on est plus dur en malus sur les véhicules les moins propres. Et on est plus encourageant avec le bonus sur les véhicules les moins polluants.
Pour le moment, les véhicules électriques ne sont pas concernés par ce malus. Certaines associations comme le WWF le réclament. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Je pense que ça sera le sens de l'histoire, mais il faut faire les choses par étapes. J'avais rencontré les associations l'an dernier qui nous avaient dit qu'il faut renforcer le critère de poids. Bon, les véhicules les plus lourds, effectivement non électriques, sont davantage taxés désormais. Je pense que c'est sain et c'est de l'écologie pragmatique. Est-ce qu'il faudra, pour les hybrides, ça va être le cas, et pour les électriques, durcir les choses, oui, mais par étapes. Faisons déjà vivre le marché de l'électrique. Sinon, les gens ne comprennent pas le message, pour être honnête. On leur dit, achetez des voitures électriques, et puis après, on raffine beaucoup. Bon, on raffinera quand le marché de l'électrique sera devenu un marché très puissant en France. Ça commence à être le cas. Je rappelle qu'un véhicule sur cinq qui est vendu aujourd'hui en France est électrique. Donc, ce n'est plus anecdotique. Et bientôt, il y aura un marché de l'occasion. 9 Français sur 10 achètent leur voiture d'occasion toute leur vie, parce que c'est moins cher. Et donc, le marché électrique d'occasion, ça arrive aussi.
Rapidement, Clément Beaune, sur la question de l'automobile. Anne Hidalgo a annoncé la limitation à 50 km/h du périphérique parisien après les Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Est-ce que vous appelez les grandes métropoles à généraliser cette réduction de vitesse?
Je suis pour que les métropoles choisissent. Ce n'est pas les mêmes problématiques à Grenoble, à Paris ou à Marseille. Simplement, ce que je note, c'est qu'on vote sur des choses où il est très clair à Paris que les Parisiens sont pour, par exemple, durcir les conditions de stationnement des SUV, je pense que c'est une bonne mesure.
Ça, c'est la votation proposée par la mairie.
Parfois de reconnaître quand c'est bien, parce que j'essaie d'être moins honnête intellectuellement, je pense que c'est une bonne mesure. Donc j'irai voter et je voterai comme citoyen parisien, oui, pour durcir les conditions sur les SUV. Mais sur le périph, ce qui est quand même beaucoup plus structurant, je rappelle que le périph, c'est pas des Parisiens qui l'utilisent principalement, ce sont des Franciliens ou des Français, des artisans, des commerçants qui en ont besoin pour bosser. Je pense que c'est d'ailleurs un peu aberrant qu'on annonce ce genre de choses sans avoir consulté les collectivités autour, la région Île-de-France, le département de Seine-Saint-Denis ou d'autres, parfois la même couleur politique d'ailleurs que Mme Hidalgo, peu importe, qui n'ont pas été même associés à ces réflexions et il n'y a pas eu d'étude d'impact précise pour expliquer aux Parisiens et aux Franciliens. Donc moi je trouve que c'est une mesure trop brutale, prématurée. En revanche, je pense, parce qu'il faut aller dans le sens de l'écologie et c'est parfois des choix courageux, avoir une voie réservée sur le périphérique, c'est une mesure intéressante et je ne m'y suis pas opposé, comme vous l'avez vu.
Mais finalement, c'est le même problème que pour les zones à faible émission qui sont justement accusées d'exclure les banlieusards des centres-villes urbains. 5 ans après les Gilets jaunes, est-ce que vous ne pensez pas justement que cette mesure risque de réanimer une forme de fracture géographique?
Et c'est pour ça que...
Rappelons ce que c'est que les zones à faible émission, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2024, les voitures critères 4 seront interdites dans 11 métropoles.
Alors attention, c'est choisi métropole par métropole, hein, c'est important de le dire.
Paris, Strasbourg, Saint-Etienne, Rouen, oui.
Alors, c'est important ce que vous dites, c'est sur la question des accès aux centres-villes. Bon. On sait que dans les centres-villes, on est mieux desservi par les transports publics, on peut utiliser plus facilement son vélo et d'autres. Et puis il y a les banlieusards ou ceux qui viennent de plus loin qui galèrent davantage parce qu'ils ont moins de transports publics, ils ont besoin de la voiture. C'est pour ça que je pense que des décisions aussi structurantes sur le périphérique parisien, ça vaudrait pour d'autres villes, doivent être concertées à l'échelle de la métropole ou de la région. C'est aberrant de décider dans un centre-ville seul. C'est ça qui crée du ressentiment et de l'incompréhension. On peut prendre des mesures courageuses, mais il faut le faire progressivement et par de la concertation, c'est essentiel. D'ailleurs, que le périphérique soit uniquement entre les mains de la ville de Paris, c'est une anomalie. Ça devrait être décidé collectivement avec la région et les collectivités alentour. Et les zones à faible émission, de manière générale, il faut les garder. Parce qu'il y a eu beaucoup de démagogie. On a dit c'est une sorte de barrière à l'entrée pour des millions de Français. Il faut le faire par étapes. Et je rappelle que c'est chaque collectivité, chaque métropole qui décide de son calendrier. C'est pas l'État qui le décide. Mais on doit, nous, l'État, avec les collectivités, accompagner le bonus écologique, le leasing social, parce que la bonne réponse, c'est pas de dire aux Français, vous inquiétez pas, le climat va s'améliorer tout seul, il n'y aura pas de mesures difficiles à prendre. Non, il faut les assumer, mais dans le temps, adapté à chaque territoire, avec un accompagnement social. Sinon, oui, on crée de la colère, et là, on crée des gilets jaunes de nouveau.
On va parler de la route Clément Beaune. Les travaux de l'A69, cette deux fois deux voies reliant Toulouse à Castres, ont repris malgré les fortes oppositions locales. Vous avez indiqué que le projet irait à son terme, mais aussi que d'autres projets seront arrêtés, des projets qui ne sont pas encore lancés. Vous tardez à communiquer sur ces projets, pourquoi ?
Oui, parce qu'il y a un travail de concertation, de discussion aussi locale. Un des critères que je prends en compte, ça vaut pour la 69 et ça vaudra pour d'autres projets, c'est de regarder quelle est la position des différents élus locaux. On regarde le critère écologique. Est-ce que ça a un impact sur la biodiversité, sur les territoires qui seraient excessifs ? Est-ce que ça apporte quelque chose en termes de désenclavement ? C'est le cas pour le Tarn avec la 69. Est-ce qu'il y a un soutien local qui est très fort ? La 69, pourquoi ? Je pense qu'il doit avancer malgré les critiques que j'entends. On a fait des améliorations environnementales. On a réduit l'emprise foncière de cette infrastructure. On va en faire aussi une route, on parlait de véhicules électriques, qui soit plus propre, qui soit exemplaire, avec des services de car, avec le département et la région, pour avoir du transport collectif. Mais c'est aussi parce qu'on parlait de démocratie au début, de vivre côte à côte ou face à face. Tout est lié. Si la décision des élus locaux est piétinée, si des annonces faites encore par le Premier ministre Jean Castex, il y a quelques mois de cela, au nom de l'État, sur le territoire, sont oubliées, on crée là aussi une incompréhension. Et j'ai longuement discuté avec la présidente de région, Mme Delga, avec le président du département socialiste, M. Ramon, avec le maire de Castres, avec d'autres élus. Ils disent, on a décidé. On a décidé démocratiquement et de manière répétée. J'ai refait ce prononcé de tous les élus, ils l'ont dit. Donc, on avance. Et puis, sur d'autres projets, on prendra, parce qu'ils sont moins avancés, oui, des décisions courageuses.
C'est la première fois. Aujourd'hui, on peut encore construire des autoroutes. On sait qu'il y a une forte mobilisation,
beaucoup moins,
notamment des militants
écologiques. Beaucoup moins. On peut construire beaucoup moins d'autoroutes et tendre vers zéro, bien sûr. Mais il y a des projets qui sont déjà engagés plus ou moins. Donc, on doit y réfléchir, en abandonner certains, évidemment. Et puis, la route, ce n'est pas la route à la papa d'hier. Il faut aussi que ce soit une route où il y a plus de bornes électriques, où il y a des véhicules électriques, parce qu'on ne va pas passer de 85% des déplacements par la route à 0% en 10 ou 15 ans, ou même 20. Donc on a besoin, dans une stratégie de décarbonation des transports, de plus de trains, plus de transports publics, je l'assume et je m'y suis engagé comme jamais, et aussi de la voiture, mais de la voiture décarbonée.
Clément Beaune, on referme la page transport si vous voulez bien et on ouvre la page politique.
On va parler un peu de politique et du projet de loi immigration qui arrive demain à l'Assemblée nationale. En commission des lois, les députés vont se pencher sur un projet de loi durci par le Sénat. Et vous qui êtes issu de l'aile gauche de la majorité, est-ce que vous pensez, comme plusieurs de vos collègues, qu'il faut détricoter ce texte du Sénat pour revenir à la version initiale, peut-être plus équilibrée selon vous ?
Oui, il faut qu'il évolue ce texte, bien sûr. Je crois que d'ailleurs tout le gouvernement l'a dit, la Première ministre l'a dit. Il y a des choses, des mesures qu'on ne partage pas. Le Sénat fait son travail, il y a une majorité qui n'est pas la nôtre au Sénat, une majorité de droite, qui a voté un texte dur. Pour certaines mesures, elles étaient dans le texte gouvernemental, d'autres on peut les partager, comme des conditions d'exclusion plus rapides, mais d'autres non, très clairement.
L'AME,
la suppression de l'aide médicale d'État. Je rappelle ce que c'est, parce que ce n'est pas la thalasso payée par le contribuable. Ce sont des mesures de soins qui sont apportées à toute personne qui est sur notre territoire, avec un contrôle très strict de lutte contre la fraude, que d'ailleurs est assez exemplaire par rapport à d'autres prestations, et qui est aussi un dispositif de santé publique autant qu'un dispositif d'humanité, parce que si vous retardez les soins, vous prenez des risques pour la santé de tous et pour les personnes concernées.
Donc,
il faut le rétablir, évidemment.
Pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le débat sur la suppression de l'AME n'est pas tabou.
Mais il s'est exprimé il y a quelques semaines, il n'avait pas dit exactement cela, mais la position du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé, de la Première ministre, on l'a tous rappelé, c'est qu'il faut, à l'Assemblée nationale, que le texte rétablisse cette aide médicale d'État. La Première ministre a lancé une mission avec une personne plutôt issue de la gauche, M. Évin, une personne plutôt issue de la droite, M. Stefanini, qui ont fait de premières recommandations. Ils vont continuer pour voir s'il n'y a pas des ajustements à faire. Pourquoi pas ? Mais le principe de l'aide médicale d'État doit être préservé. Et surtout, je vais vous dire, dans un moment, on a besoin de fermeté républicaine et aussi d'unité. On n'a pas besoin de bouc émissaire. On n'a pas besoin de fausses polémiques. On a besoin de sérieux, de fermeté sur la lutte contre l'immigration illégale et clandestine. C'est totalement assumé, même quand on vient de la gauche. Je crois beaucoup à cette autorité républicaine, mais pas en pointant du doigt des choses qui n'améliorent rien la lutte contre l'immigration illégale, comme la suppression de l'AME.
On en vient maintenant à vos ambitions personnelles. La mairie de Paris, vous y pensez en ne vous rasant pas ?
Oui, c'est l'avantage de ne pas se raser, c'est qu'on a moins de pensées le matin, ça va plus vite. C'est peut-être ça en politique d'ailleurs, pour se concentrer sur sa mission. Donc plus tard, on verra. Je suis aujourd'hui déjà un élu parisien. Je m'y engage, certains militants sont avec moi aujourd'hui toutes les semaines. dans ma circonscription et au-delà, parce qu'il y a beaucoup à faire. Je ne lâcherai pas cet engagement pour Paris. Je n'ai pas choisi de m'implanter à un endroit au hasard. C'est l'endroit où je suis né, l'endroit où je vis, l'endroit où je veux m'engager. On verra ensuite les candidatures, les programmes, les processus. Ça viendra un peu plus tard.
Elle est de gauche comme vous, Anne Hidalgo. Vous trouvez que c'est une bonne maire ?
Non, je ne crois pas que ce soit une bonne maire de Paris. Pas vous le cacher. Je trouve que quand on utilise des contre-feux, ce qui est une vieille technique politicarde, pour cacher ses voyages et ses polémiques, et qu'on est prêt
vous
à sacrifier les jeux.
Vous parlez de son voyage en Polynésie.
Oui, quand on est prêt à sacrifier l'image de la France et de la capitale, 250 jours avant les Jeux, pour éteindre une polémique sur un sujet douteux, je pense qu'on n'est pas à la hauteur de l'État et de l'intérêt général. Et puis sur la propreté, sur la sécurité, sur la circulation, comme Parisien, je vous le dis très franchement, et je l'entends beaucoup, je crois que les études d'opinion le montrent, on n'est pas ravis, on n'est pas du tout ravis.
Et la tête de liste aux élections européennes, vous y pensez ? Vous avez été successivement conseiller spécial d'Emmanuel Macron pour les affaires européennes, secrétaire d'État puis ministre délégué chargé de l'Europe dans le gouvernement Borne. Vous êtes légitime, est-ce que vous y pensez ?
Oui, je ne suis pas le seul. Hein. Mais oui, je me suis engagé pour l'Europe, je vous le confirme, et je continuerai, je vous le dis aussi, dans cette
vous
campagne.
Vous êtes le seul, il y a Stéphane Séjourné, hein ? C'est ça le...
Non, mais il y a d'autres aussi qui sont légitimes au sens où ils sont engagés sur la question européenne depuis 2017, derrière le président. C'est un élément constitutif, j'allais dire identitaire pour nous, politiquement. On est des pro-européens de tous les jours, pas seulement tous les 5 ans au moment des élections européennes. Donc, je m'impliquerai dans cette campagne. Je suis secrétaire général délégué du Parti Renaissance pour l'Europe, parce que cet engagement, je ne le lâcherai jamais, même quand je ne ferai peut-être plus de la politique, jamais. Donc oui, je serai un acteur de cette campagne. Après, acteur, ça ne veut pas forcément dire candidat. On a défini un calendrier autour de Stéphane Séjourné, qui est le début d'année, sans doute le mois de janvier, pour arrêter une tête de liste. Et c'est à ce moment-là qu'il sera décidé qui conduit notre liste.
Dans les sondages d'opinion, pour l'instant, la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella devant celle de la majorité présidentielle d'une dizaine de points, selon les candidats testés, est-ce que ça vous préoccupe ?
Mais ça me préoccupe parce que ça veut dire qu'il y a un combat à mener. Mais on le voit dans toutes les élections en Europe en ce moment. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a rien qui est garanti, ni pour le meilleur, ni pour le pire. Vous avez des bonnes nouvelles, de mon point de vue, quand les nationalistes perdent les élections en Pologne, quand l'extrême droite se casse la figure en Espagne. Puis vous avez des très tristes nouvelles quand
les
un pays comme les Pays-Bas...
Plutôt, hein. Pardon ? L'Europe est plutôt tendance à glisser à droite.
Oui, mais quand on mène des combats, en Pologne, ce n'était pas gagné que le parti pro-européen remporte les élections. Il y a eu une marche citoyenne magnifique d'1 million de personnes et une victoire électorale. Donc, pour revenir aux élections européennes, vous savez, il n'y a pas de victoire sans faire campagne. Et donc, en 2019, on était 6 mois après les Gilets jaunes, on prédisait un effondrement. Les sondages, à la même époque, donnaient, je crois, 8 ou 9 points d'écart avec le Front National. Et donc, il faut mener cette campagne. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on défende un logiciel pro-européen. Moi, je ne veux pas que des gens qui ont soutenu la Russie, qui ont voulu qu'on se vaccine au vaccin russe, qui ont voulu quitter l'Union européenne il n'y a pas si longtemps, ou la zone euro, nous représentent au Parlement européen. Ce n'est pas bon pour le pays. Il faut le dire aux Français.
Rapidement, Clément Beaune, 2 ministres sont concernés par une actualité judiciaire cette semaine. Éric Dupond-Moretti, qui a été jugé pour prise illégale d'intérêt, il sera fixé mercredi 1 an de prison avec sursis a été requis. Et Olivier Dussopt, qui est jugé à partir de demain pour favoritisme. C'est quoi la règle ? S'ils sont condamnés, ils doivent quitter le gouvernement ?
Et je ferai aucun commentaire, parce que faire un commentaire, c'est déjà s'immiscer dans une procédure.
Je vous parle de politique,
bien sûr. Non, vous pouvez rappeler la règle.
Non, mais la règle, d'abord, elle n'est pas définie par un ministre. Elle est définie par le président de la République et la première ministre, au cas par cas, en fonction des circonstances.
C'est pas aussi clair, en tout cas.
Mais c'est pas moi qui vais énoncer une règle. Et encore une fois, la veille de procédures ou pendant des procédures judiciaires, quand on est un membre de l'exécutif, avoir une sorte de prédiction ou énoncer une règle, ce serait déjà faire un commentaire sur une procédure. Je ne veux pas le faire. Je veux simplement dire qu'il y a une présomption d'innocence. C'est la justice qui tranchera. On verra ensuite. Et à titre personnel et amical, permettez-moi, parce que ce sont des collègues que j'apprécie et qui sont engagés, de leur apporter aussi un soutien personnel.
Merci beaucoup Clément Beaune d'être venu à la rencontre des auditeurs de RTL dans ce grand jury. Juste après le flash, vous retrouvez Focus Dimanche avec Mohamed Bouazizi.